Béni soit le Seigneur qui nous a bénis déjà durant cette soirée. Et Dieu veut encore le faire au travers de sa parole ce soir. Il veut, oui, parler à nos cœurs, te parler. Et j'aimerais pour cela qu'on ouvre sa parole dans l'épître de Pierre, la première, 1 Pierre, chapitre 1er. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Amen. Voilà, dans ce passage, nous voyons ce qui est plus précieux que l'or. Je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez le prix de l'or. Est-ce que quelqu'un connaît le prix de l'or au kilo, au gramme? 1 gramme égale 35 euros. C'est quand même cher. Ça ne fait pas partie des matériaux les plus chers au monde, mais ça en fait quand même partie. Mais ce n'est pas le plus cher des matériaux, mais c'est quand même cher. 1 gramme, 35 euros. 1 kilo, 35 000 euros. C'est quand même pas mal. Si vous en avez, n'hésitez pas. Mais connaissons-nous ce soir la valeur de ce que Dieu met à notre disposition, de ce que Dieu nous donne, de ce que Dieu nous accorde par grâce. Connaissons-nous la valeur de tout ce que Dieu met là devant nous? Parce que dans ce passage, nous voyons, j'ai été émerveillé de voir cela à plusieurs reprises, justement, ce qui a plus de valeur, ce qui est plus précieux que l'or. On voit, on a lu premièrement, c'est pas détaillé sur ce point-là, mais quand même, on peut vite faire un parallèle sur ça, sur la paix. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Combien de personnes seraient prêtes à donner des milliards juste pour avoir la paix dans leur cœur? Combien de personnes seraient prêtes à donner tout ce qu'elles possèdent pour être soulagées, pour être comblées? Il y a des milliardaires qui cherchent par tous les moyens à combler leur cœur de paix, de repos. Mais on sait que ce n'est pas l'argent qui peut nous donner d'avoir la paix. La paix n'a pas de prix. La paix vaut bien plus que l'or. Que l'or, l'argent, la paix, le repos, la tranquillité, le fait d'être comblé, le fait de recevoir la grâce de Dieu, le fait d'être en communion avec lui, être restauré, guéri par lui, tout cela n'a pas de prix. Tout cela n'a pas de prix. Et nous pouvons recevoir tout cela, tous ces bienfaits, grâce, nous le savons, grâce à Dieu, grâce à l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, le salut de nos âmes. Là encore, cela n'a pas de prix. Et tout cela, nous le pouvons, oui, parce que nous pouvons le recevoir parce que Jésus a versé son sang. Et nous voyons que cela n'a pas de prix dans ce chapitre, dans cet épître, au verset 18, il est écrit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. » Par le sang précieux. Oui, le sang de Christ est précieux. Le sang de Christ vaut bien plus que tout l'or, que tout l'argent, nous le savons, de ce monde. que tout ce que ce monde pourrait offrir. Le sang de Christ est ce qu'il y a de plus précieux aussi aux yeux de Dieu. Il a donné ce qu'il avait de plus cher pour chacun d'entre nous, ce qui signifie que nous sommes aussi précieux, précieuses à ses yeux, que nous valons bien plus que l'or, l'argent de ce monde à ses yeux. Et il va le dire d'ailleurs dans cet épître au chapitre 2, il va dire au verset 4, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. » Savez-vous ce soir que vous avez de la valeur aux yeux de Dieu ? Qui que vous soyez, quelle que soit votre même situation, votre position, que vous connaissez Dieu ou pas, vous avez de la valeur à ses yeux, vous êtes précieux, précieuse. On le voit au travers de ces versets. Et bien plus que sa grâce, sa paix, comme nous avons partagé, qui vaut bien plus que l'or, l'argent de ce monde, il y a cet héritage aussi. Nous l'avons lu au verset 4. Il y a un héritage pour tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ, pour tous ceux qui se sont tournés vers Dieu, tous ceux qui se sont engagés à marcher dans les voies de Dieu. Il y a un héritage qui nous est réservé. C'est important de le savoir. Au verset 4, nous le voyons, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Donc ce n'est pas par des choses périssables, c'est-à-dire terrestres. Il vous est réservé dans les cieux. Nous avons tous un héritage, pour tous ceux qui ont fait la paix avec le Seigneur, un héritage qui nous est réservé dans les cieux. Je ne sais pas pour vous, mais moi ça me donne envie et ça me pousse vraiment à la louange, à la reconnaissance envers Dieu de toutes ces richesses, de tous ces bienfaits qu'il nous donne, qu'il nous accorde par grâce, par pure grâce. Et nous pouvons voir encore un autre point qui nous montre ce qu'il y a dans la parole, ce qu'il y a de bien plus précieux que l'or. C'est la parole. Nous le voyons dans ce chapitre. Au verset 23, il est écrit « Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous êtes d'accord? Vous voyez les mêmes choses que moi. L'or, c'est périssable, c'est corruptible. La parole, elle est permanente. Et la parole de Dieu vaut bien plus que tout l'or, tout l'argent de ce monde. C'est d'ailleurs le psalmiste, dans le psaume 119, qui pouvait dire, au verset 72, « Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. » Au verset 127, il va dire « J'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. » Comment considérons-nous ces choses que Dieu nous donne, dont on parle, tous ces bienfaits, comment les considérons-nous maintenant, pour nous aujourd'hui, ce soir, dans nos vies, dans nos cœurs? Comment les voyons-nous? Est-ce que nous réalisons vraiment la valeur de tous ces biens, de tous ces dons que le Seigneur nous fait, nous donne? Est-ce que pour nous, ces choses ont plus de valeur que ce qu'il peut y avoir dans ce monde, que ce qui est terrestre, que ce qui est périssable, que ce qui est passager? Est-ce que nous considérons le sang précieux de Jésus-Christ? Est-ce que pour nous, il a de la valeur? Ou est-ce que pour nous, il est vain? Est-ce qu'on le néglige? Est-ce qu'on le méprise? C'est-à-dire, est-ce qu'on lui accorde aucun prix, aucune valeur? Est-ce qu'on le rejette ou est-ce qu'on réalise la valeur de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour sauver nos vies, pour sauver nos cœurs? Est-ce qu'on réalise la valeur de la paix, de la grâce de Dieu? Est-ce qu'on réalise la valeur de cet héritage qu'il nous donne? Vraiment, comme la parole nous le montre, toutes ces choses qui valent bien plus que l'or, l'argent. Est-ce qu'on réalise la valeur de la parole de Dieu? Vraiment, la parole que nous avons, c'est vrai, nous avons... Nous, la grâce, la grande bénédiction d'avoir la parole de Dieu dans notre langue, est-ce que nous réalisons la valeur qu'elle a? Je crois qu'il y a un grand piège dans notre société qui est étouffé par tout ce matérialisme. C'est de ne plus considérer ce qui a véritablement de la valeur. Et ce soir, que nous puissions ne pas tomber dans ce piège. Mais prendre conscience de ce que le Seigneur nous montre, de ce que le Seigneur nous dit, de la vérité. Ne pas nous faire égarer par les pièges du diable, ces mensonges, mais vraiment de considérer ce qui a la véritable valeur, ce qui peut vraiment sauver nos âmes, nous fortifier, nous donner d'avancer. Parce que vous savez, dans la parole, il y a ce verset, l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Et c'est vrai que nous voyons tant de désastres, tant de situations, de conflits, de problèmes à cause de l'argent. C'est un drame. Ce n'est pas l'argent en soi le problème, on le sait. D'ailleurs, Dieu va dire dans sa parole, l'or et l'argent m'appartiennent. Ce n'est pas l'argent le problème, ce n'est pas l'or le problème. Un chrétien peut être riche et être agréable aux yeux de Dieu. Il peut y avoir de riches chrétiens qui marchent correctement selon Dieu. Il n'y a aucun problème à cela, ce n'est pas l'argent le problème. Le problème, c'est cet attachement que l'on peut avoir à l'argent. Et c'est considérer l'argent comme étant plus important que ce qui vient de Dieu. Mais voyez-vous, ce verset, il ne concerne pas que les riches. Vous le savez, j'en suis sûr pour la plupart. L'amour de l'argent ne concerne pas que les riches. On peut être pauvre même et être plus attaché à l'argent qu'à ce qui vient de Dieu, qu'à toutes ces merveilles qui n'ont pas de prix que Dieu veut nous accorder. Et ce soir, voilà, quelle que soit notre position, notre situation, ne tombons pas dans ce piège d'accorder une plus grande valeur à des choses du monde qu'à, je le redis, ce que Dieu nous donne par grâce. Parce que je le dis avec peine, vraiment, mais c'est des situations que j'ai pu voir. Et il y a des personnes qui ont vite fait de choisir quand on leur propose, quand on leur met un choix, quand on leur demande soit de venir bien écouter la parole de Dieu à l'église ou d'aller faire une soirée quelconque, une activité dans le monde. Il y a des personnes, dans leur cœur, c'est très 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 vite choisi, c'est très vite choisi. Et c'est terrible. Parce qu'on ne réalise plus ce qui a cette grande valeur, ce qui est plus précieux que l'or. Alors ce soir, j'aimerais voir cela avec vous et aller un peu plus loin, plus profondément dans ce partage et voir aussi un point qu'on a vu, qu'on a lu, qui nous montre aussi ce qui peut être plus précieux que l'or. L'épreuve de la foi. Vous êtes d'accord? C'est bon? On peut y aller? L'épreuve de la foi. C'est quelque chose qui est interpellant. Nous l'avons lu dans ce passage que nous avons lu, dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. Et il y a aussi cet autre élément qui est plus précieux que l'or, c'est l'épreuve de la foi. Alors d'autres versions, c'est vrai que quand on compare les versions, beaucoup d'autres versions amènent à réaliser que c'est la foi aussi qui peut être plus précieuse que l'or. Quand on compare les versions, il est plus précisé que ce peut être cette foi que l'on a qui peut être plus précieuse que l'or. Cette foi correcte qui nous donne de saisir toutes les grâces de Dieu. Et c'est vrai que la foi aussi, ça n'a pas de prix. La foi qui saisit la grâce de Dieu, le salut, la vie éternelle, ça n'a pas de prix, on ne peut pas l'acheter. Mais néanmoins, dans ce passage, on peut voir les deux. Et on peut comprendre aussi qu'il est question de l'épreuve de la foi qui est précieuse, plus précieuse que l'or. J'ai trouvé cette version qui dit qu'il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves afin que ce moyen par lequel votre foi est éprouvée et qui est beaucoup plus précieux que celui par lequel on éprouve l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, tourne à votre louange. Il faut que vous soyez attristés par diverses épreuves afin que ce moyen par lequel votre foi est éprouvée et qui est beaucoup plus précieux que celui par lequel on éprouve l'or périssable tourne à votre louange. On le sait, le feu pour le fondeur est un agent précieux. C'est ce qui lui donne de pouvoir purifier l'or. Et pour nous, en tant que croyants, les souffrances, les épreuves, les difficultés dans notre marche avec Dieu doivent aussi être considérées comme bien plus précieuse que l'or. Bien plus précieuse parce que ces épreuves, ces difficultés, ces souffrances qui peuvent être là dans notre marche chrétienne amènent justement à épurer notre foi, amène à pouvoir justement à être fortifié dans notre foi, à être affermi. C'est pour cela que ces épreuves sont précieuses, l'épreuve de la foi. C'est ça, c'est ce que j'aimerais partager et voir ce soir avec vous, précisément. L'épreuve de la foi, c'est une épreuve bien particulière. Cela ne concerne pas toutes les épreuves, l'épreuve de la foi. On va voir. Parce qu'il y a diverses épreuves. Il y a des épreuves inutiles, des épreuves qu'on pourrait bien s'éviter à cause de résistance, à cause de désobéissance, à cause de négligence. Mais il existe à l'opposé des épreuves précieuses. Plus précieuses que l'or, des épreuves utiles qui nous font grandir et progresser. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que signifie justement donc l'épreuve de la foi? Parce qu'on pourrait se dire, mais l'épreuve, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'épreuve. Dieu veut que nous soyons toujours dans la facilité, dans des verts pâturages, dans la bénédiction, oui. Mais on peut voir dans la parole de Dieu qu'il y a l'épreuve de la foi et qu'on peut être éprouvé de différentes manières. Jésus a mis clairement au courant ses disciples dès le départ. Il a pu dire dans Jean chapitre 16, verset 33, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous a tous mis au clair. Et ce soir, il nous prévient, si quelqu'un ne le savait pas, nous aurons des tribulations, nous aurons des épreuves, nous aurons des difficultés, même en marchant avec Dieu, même en nous engageant avec lui. On voit Paul qui, dans Actes 14, 21, après être revenu de ses voyages missionnaires, va revenir à Antioche et il est dit qu'il va fortifier, pour fortifier l'esprit des disciples, et il va les fortifier en les exhortant à persévérer dans la foi et en disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. C'est par beaucoup de tribulations. C'est comme cela que Paul exhortait les chrétiens. Alors ce soir, je ne sais pas si cela vous encourage de savoir qu'il y aura des épreuves, qu'il y aura des tribulations, qu'il y aura des difficultés. Mais c'est la vérité. C'est ce qu'il nous faut aussi entendre pour être dans une marche équilibrée. Et ce n'est pas que cela qu'il nous faut entendre. On va voir davantage ce soir. Ce soir, j'aimerais qu'on puisse comprendre que l'épreuve dans la vie chrétienne, c'est quelque chose de normal. C'est plutôt l'inverse qui est anormal. Ce serait plutôt le fait de ne pas avoir d'épreuve. Là, ça serait un problème et il nous faudrait se poser de bonnes questions, de se remettre en question. Et si vous n'avez pas d'épreuve, je ne vais pas vous décourager, mais il y en aura. Et si vous n'en avez pas et que vous êtes chrétien, n'hésitez pas à venir partager. Prendra le temps de voir la volonté de Dieu aussi et de voir peut-être cette démarche pour rester dans les voies de Dieu, pour rester dans cette marche qui nous amène à traverser des épreuves. Et la parole nous montre que les épreuves peuvent venir essentiellement de trois sources. On peut voir dans la Bible que les épreuves peuvent venir du diable, l'ennemi de nos âmes, qui est appelé aussi le tentateur, celui qui s'opposera toujours à l'œuvre de Dieu, qui cherchera par tous les moyens à faire chuter, à faire tomber les enfants de Dieu. On le voit d'ailleurs dans cette épître, au chapitre 5, verset 8, regardez. Il écrit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire », donc ce qui montre bien l'opposition, « votre adversaire ». Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Voilà pourquoi il y a ce besoin d'avoir cette foi affermie, épurée, justement dans ce but de résister au diable. Soyez sobres, veillez votre adversaire, le diable rôde comme un lion. Il y a ces épreuves donc, qui peuvent être là à cause du diable, mais aussi à cause de la chair. La chair, c'est la nature pécheresse. C'est ce que la parole aussi nomme comme étant l'ancienne vie, le vieil homme, la vie sans Dieu, le moi, cette partie de nous terrestre. Et Dieu nous appelle à faire mourir ce qui, dans nos membres, est terrestre. Parce que c'est ce qui peut justement amener des épreuves, de l'opposition dans nos vies. Et toujours dans cette épître, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, on peut voir ce verset. « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » Bien-aimés, je vous exhorte, il y a cet encouragement à là nous abstenir des convoitises charnelles. Tout ce qu'il peut y avoir justement dans ce monde, ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et Romains chapitre 8, verset 13 dit « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Voilà ce à quoi Dieu nous appelle, à vivre selon son esprit, à marcher selon son esprit, à faire mourir les actions du corps, afin de ne pas justement se laisser avoir des épreuves à cause de la chair. Et une troisième source qui peut amener des épreuves dans nos vies, eh bien c'est Dieu. C'est important là aussi de le considérer, de le savoir, parce que l'épreuve de la foi vient précisément de Dieu. C'est Dieu qui la permet pour, comme je le disais, affiner, fortifier notre foi, mais aussi pour tester notre confiance, notre obéissance, notre réel attachement à sa personne, à sa parole, à ses commandements. Et on peut le voir au travers de plusieurs passages dans la parole. Dans Ésaïe chapitre 45, verset 7, on peut voir ce verset qui nous montre cela. « Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » C'est quand même interpellant. On voit cette parole de Dieu. « Je donne la prospérité, je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » On peut voir aussi dans Ésaïe chapitre 48, verset 10, cette parole de Dieu, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi que je veux agir. Car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Ces paroles nous amènent à comprendre que l'épreuve peut venir de Dieu aussi. Et il nous faut l'accepter, il nous faut le saisir, le comprendre. Parce que c'est ce qui nous donnera de faire de réels progrès. Je crois vraiment que nous avons tout intérêt à garder ces paroles, ces versets dans nos cœurs, afin de saisir cette marche à laquelle Dieu nous appelle. Nous avons entendu un don spirituel tout à l'heure pendant ce temps de prière que nous avions. Je ne sais pas si vous étiez tous là, mais je tiens à rappeler que c'était un verset de la parole qui a été cité dans ce don. Vous savez ce verset qui dit « Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ?» Je ne sais pas si vous savez où est ce verset. Vous savez où est ce verset ? Dans Amos chapitre 3, verset 6. Je vous le donne pour ceux qui prennent des notes. Vraiment, c'est ces versets qui nous apprennent à réaliser, à considérer ce que Dieu fait, comment il agit envers chacun d'entre nous, parce que personne n'est exempt. Oui, Dieu est celui qui permet l'adversité, qui permet les épreuves, l'opposition, pour un seul but, pour notre bien, pour nous donner de pouvoir nous approcher de lui, pour nous donner vraiment de pouvoir davantage le connaître, pour nous donner de avoir cette foi ferme, solide, inébranlable. Et la parole nous montre et nous appelle à avoir des modèles de souffrance. Je ne sais pas si vous avez des modèles dans la parole ou dans le monde, mais la parole de Dieu nous appelle à avoir des modèles de souffrance. C'est quand même là encore interpellant. Dans Jacques chapitre 5, verset 10, il y a ce verset. « Prenez mes frères pour modèles de souffrance. » Souvent, on prend pour modèles des personnes qui sont vraiment toujours exemplaires, fortes, qu'on voit réussir dans tout. Pourtant, la parole nous précise de savoir aussi prendre des modèles de souffrance, des personnes qui sont passées par la souffrance. Et la parole est remplie d'exemples d'hommes, de femmes qui sont passés justement par la souffrance, parce que Dieu nous montre cette réalité au travers de ses serviteurs, de ses servantes. Pensez à Abraham qui a vécu l'épreuve de la foi. On peut le voir dans Genèse chapitre 22. Vous savez, ce passage, Abraham a été éprouvé à plusieurs reprises, mais là, ça a été le point culminant dans la vie d'Abraham. On peut voir dans ce passage que Dieu va demander à Abraham d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Et ce passage commence comme cela, Genèse chapitre 22, verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça ne peut pas être plus clair. C'est l'épreuve qui vient de Dieu, là. L'épreuve, elle n'était pas à cause du diable, à cause d'Abraham qui aurait chuté, qui aurait désobéi, qui vivrait dans le péché. Non. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham », et il répondit « Me voici ». C'est beau quand Dieu nous appelle, même pour nous mettre à l'épreuve, et qu'on répond « Me voici ». Qu'il y a cet élan, cette promptitude à répondre à l'appel de Dieu, quel qu'il soit, pour lui obéir. Et ce soir, que ce soit là notre réponse, quelle que soit la volonté du Seigneur, parce qu'on a tout à gagner. Vraiment, le Seigneur ne se joue pas de nous. Mais c'est vraiment pour notre bien qu'il permet ces épreuves. Et il sait ce que nous sommes capables de traverser. Vous savez, la parole nous le précise. Il est écrit qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'était humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. On peut voir encore comme exemple et modèle de souffrance Job. D'ailleurs, ce passage dans Jacques chapitre 5, verset 10, qui dit « Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience », en parle. Il dit « Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. » Et ce soir, vraiment, retenons, réalisons cela, c'est que s'il y a l'épreuve, il y a la grâce de Dieu, il y a sa compassion, il y a son amour, il y a sa miséricorde à l'égard de chacun d'entre nous. Réellement, il est celui qui, quand on l'accepte, marche à nos côtés, nous aide, nous porte et nous donne d'aller de l'avant, de traverser ces épreuves, ces difficultés. C'est ce qu'il a fait pour Job. Oui, Job a été énormément éprouvé, l'épreuve de Job, ce qu'on réalise, hein, la perte de tous ses biens, oui, l'or, l'argent, tout ça, ça c'est une chose, mais la perte de tous ses enfants, même la santé, et pendant combien de temps? La Bible ne nous le dit pas, mais on voit la fin que le Seigneur lui accorda aussi. De la même manière que pour Abraham, la fin que le Seigneur lui accorda est belle, glorieuse, merveilleuse. Il fut appelé le père des croyants par l'exemple de sa foi, justement ferme, solide. Et Job, de la même manière, a tenu ferme. Il n'a pas renié Dieu, mais il est resté fidèle, attaché à Dieu. Et on voit vraiment la bénédiction de Dieu dans la fin de ces jours où on voit comment Dieu a restitué, a donné le double de tout ce que Dieu avait déjà donné à Job en ce qui concerne le matériel, et il a pu lui donner d'autres enfants. Vraiment, cette grâce qui était là, parce qu'il a su rester fidèle dans l'épreuve, parce qu'il a su persévérer, rester attaché à Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut considérer, tenir ferme, même quand on est éprouvé, aller jusqu'au bout, persévérer. C'est l'encouragement que le Seigneur veut nous donner ce soir. Nous encourager, quand c'est difficile, nous encourager, même s'il y a une fin qui peut être aussi difficile. Parce que c'est vrai que pour Job, ça se termine bien. Il y a plein d'autres passages pour Abraham, pour d'autres aussi situations dans la parole qui terminent bien. Et on aime bien les passages qui se terminent bien. Mais la parole ne donne pas que des exemples où il n'y a que des situations qui se terminent bien. On voit, c'est vrai, encore un passage qui se termine bien, mais qui nous montre ce que je veux vous partager, c'est cet exemple avec les amis de Daniel, qui ont été aussi éprouvés dans l'adversité, cette adversité que Dieu a permis dans leur vie, alors qu'ils marchaient dans l'obéissance, qu'ils étaient attachés à Dieu. Les amis de Job, quand ils vont se retrouver, eux, littéralement dans la fournaise. Et j'aime énormément cette parole qu'ils vont dire au roi, quand le roi va les menacer pour qu'il l'adore. Ils vont répondre au roi, « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Daniel, les amis de Daniel étaient vraiment dans cette marche avec Dieu, dans cette vision équilibrée de la vie avec Dieu. Ce n'était pas que la bénédiction, que les joies, que le succès, comme on le voit, comme on le pense, mais c'était oui, il peut y avoir les miracles, il peut y avoir la puissance de Dieu pour nous délivrer, sinon, il peut y avoir la difficulté, il peut y avoir l'épreuve. Ce sinon montre qu'il pouvait aussi mourir à cause de cette épreuve. Et ce sinon est vraiment très équilibré, parce que c'est ce que la parole de Dieu nous montre, par, vous savez, ce passage avec les héros de la foi. Cette foi vraiment qu'ils ont manifestée, solide, ferme, persévérante, jusqu'au bout. Et on voit toutes ces œuvres où on retrouve Abraham, et où on voit tous ces héros de la foi, tout ce qu'ils ont pu accomplir de grand aux yeux de Dieu, aux yeux des croyants aussi. Mais dans ce même chapitre, vous savez, il est question de ceux qui aussi ont eu cette foi ferme, mais qui ont pu, eh bien, eux, par contre, subir les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Il est dit qu'ils furent lapidés, sciés. Et quand on regarde dans les contextes de la vie des prophètes, la tradition, mais ce n'est pas la tradition, c'est selon ce qui est dit, Ésaïe serait mort scié. Ésaïe, le prophète, serait mort de cette manière. Selon ce qui a été dit de lui, c'est la mort qu'il aurait eue, cet homme de Dieu, cet homme de foi. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage. C'est quand même beau, c'est quand même vraiment exemplaire de voir là encore que, eh bien, il peut y avoir ces fins aussi, qui peuvent nous paraître négatives, difficiles, mais qui sont pourtant glorieuses. Parce que ces personnes sont restées fidèles, et nous le savons, maintenant elles sont dans la gloire. Et la parole nous dit que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à ce poids de gloire à venir. Puissions-nous encore considérer ces choses ? Considérer, voilà, que, eh bien, il peut y avoir des souffrances, des situations qui s'améliorent, qui se changent, qui se terminent bien. Il peut y avoir des souffrances qui peuvent paraître aux yeux des hommes se terminer mal, mais pas aux yeux de Dieu. Dieu est souverain et il contrôle tout, il dirige tout, comme il l'a fait pour ces exemples que nous avons vus. Alors, qui allons-nous prendre en modèle de souffrance ce soir ? À qui choisissez-vous ? On aurait pu en voir d'autres. On ne va pas parler de Joseph, mais c'est pareil, Joseph, sa situation, on voit l'épreuve, et pourtant la volonté de Dieu, comment Dieu l'a conduit, comment Dieu était avec lui. En tout cas, on voit que dans tous ces passages, concrètement maintenant pour nous aujourd'hui, on voit ce par quoi l'épreuve de notre foi, l'épreuve de la foi nous fait passer. On pourrait dire d'une manière générale, cela concerne les injustices à nos yeux. Parce que c'était injuste pour Abraham d'offrir son fils Isaac. c'était injuste. Ce qui était juste, c'était de le garder, de le protéger, pour pouvoir ensuite vivre la promesse que Dieu lui avait faite, avoir cette descendance plus nombreuse que les étoiles du ciel. C'était injuste pour Job de vivre cette souffrance, lui qui craignait Dieu, lui qui était intègre. C'était injuste pour les trois amis de Daniel d'être envoyés dans la fournaise, alors qu'ils avaient honoré, respecté Dieu, honoré sa parole. C'est injuste dans toutes ces situations que l'on peut voir. On peut voir vraiment ces injustices de partout. Et c'est vraiment ce point commun, c'est vrai. L'épreuve de la foi par laquelle Dieu veut nous faire passer peut concerner ces injustices par lesquelles nous pouvons aussi passer. Ces injustices que nous pouvons vivre dans notre vie, dans notre marche, dans le travail, dans tous les domaines. Ça peut concerner le travail. Dans cette épître de Pierre, nous voyons justement Dieu au travers de l'apôtre Pierre qui va encourager les chrétiens, les croyants, et qui nous parle, qui nous encourage ce soir, mais qui va dire « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes. » Il va dire « Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. » Il peut y avoir des injustices dans le travail, envers le patron, les ouvriers, les collègues de travail, ce qui nous entoure. Il peut y avoir des injustices. Dieu nous appelle à savoir être soumis, à savoir néanmoins non pas chercher à nous justifier, à nous venger, mais à lui faire confiance, en nous en remettre à lui, en nous en remettre entre ses mains. Il peut y avoir des injustices dans nos relations avec nos amis, des personnes qui peuvent nous trahir, mal nous parler, se moquer de nous, nous injurier. Mais nous avons vu dans cet épître tout à l'heure en commençant la prière, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Est-ce que nous voulons hériter ce précieux trésor qui vaut bien plus que l'or et l'argent? Eh bien, appliquons-nous à retenir ces conseils qui valent bien plus que l'or, à mettre en pratique la parole de Dieu. Et il peut y avoir encore le domaine même de la famille, des injustices. Dans les relations, des conflits, on le sait. Et comment le Seigneur nous appelle à agir, savoir être bien toujours respectueux. Voilà, par le mal pour le mal, c'est Pierre qui va parler, qui va dire aux femmes, que chacune soit de même soumise à son mari. Au chapitre 3, verset 1er. Femmes, que chacune soit de même soumise à son mari, afin que, si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés, sans parole, par la conduite de leur femme. Voilà le résultat. Quand on obéit, quand on marche dans les voies de Dieu, Dieu agit, intervient, touche les vies, les cœurs de ceux qui ne croient pas en lui, de ceux qui sont loin de lui. Et il peut y avoir ces conflits dans la famille, comme je le dis, dans le couple, dans des personnes qui peuvent vivre avec un mari ou une épouse inconvertie. Il peut y avoir ces difficultés, ces injustices, mais le Seigneur voilà, nous appelle à toujours l'honorer en faisant du bien, en aimant tous ceux qui nous entourent. En sachant toujours surmonter le mal par le bien. Il peut y avoir des injustices dans la famille, même envers les, vous savez, les beaux-fils et les belles-mères. Entre les gendres et les belles-mères, ça peut arriver. C'est un mythe ou c'est la vérité? Pour ceux qui sont mariés. Ah, il paraît que c'est fondé. Moi, je sais qu'on m'a dit que c'était quand même très répandu, qu'il y avait quand même pas mal de conflits entre les belles-mères et les gendres. Mais on sait que quand on se tourne vers Dieu, tout cela s'efface. On sait que quand on se tourne vers Dieu, quand vraiment chacun on fait cette démarche de foi, d'accepter Dieu dans notre vie, dans notre cœur, ben, dans les familles, il y a la paix, il y a la bénédiction de Dieu. Alors, on le voit dans la parole. Dans, justement, moi, il y a un passage que j'aime énormément dans les évangiles, où quand Jésus va rentrer dans la maison de Pierre, qui va voir la belle-mère de Pierre, et qui va la toucher, et à ce moment-là, vous savez ce qu'elle va faire. Elle va la toucher, elle va guérir, elle va se lever, et elle va les servir. C'est écrit dans Matthieu, elle va le servir, mais dans Marc, c'est écrit, elle va les servir. Aussitôt. Moi, j'aime bien la version de Marc. Pour certains, dans le monde, ça serait miraculeux, ça. Ça relève du miracle, je suis sûr. Mais pour nous, c'est la normalité. C'est pas la normalité de se faire servir par sa belle-mère, mais c'est la normalité. C'est la normalité de cette intersoumission, cet amour mutuel, vraiment ce respect, cette douceur, cette bienveillance. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il se passe quand on obéit au Seigneur, quand on accepte de marcher dans ses voies, de répondre comme il nous y appelle, au mal par le bien. J'aimerais terminer rappelant le plus grand des exemples. Parce que c'est vrai qu'on a pris comme exemple des hommes, mais n'oublions pas le plus grand des exemples, la plus grande des injustices en même temps, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Et dans cette épître, l'épître de Pierre, regardez, si vous y êtes toujours, si vous avez votre Bible ouverte, dans chapitre 3, verset 18, il est écrit « Christ aussi a souffert ». Christ aussi a souffert, une fois pour les péchés, lui juste, pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Au chapitre 4, verset 1er, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. » Est-ce que nous sommes armés de la même pensée? Cette pensée de souffrir. Dans 1 Pierre, chapitre 2, regardez quelques pages avant, chapitre 2, verset 21, « Et c'est à cela, à la souffrance, selon Dieu. C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert, pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Ce soir, c'est là ce qu'il nous faut faire. Je ne sais pas votre situation, comment vous êtes venu ce soir, si vous êtes au creuset, si vous êtes éprouvé, mais la solution, elle est là. C'est à l'exemple de Jésus-Christ, c'est de s'en remettre à celui qui juge justement, à celui qui justifie, à celui qui rendra à chacun selon ses œuvres. Parce qu'on le sait, la parole nous parle aussi de ce jour où nous nous retrouverons devant Dieu et où l'œuvre de chacun sera éprouvée. Et là encore, on voit cette image, l'image du feu pour qui éprouve, qui est pur. Et c'est ce qui se passera. Et c'est ce qui se passera et c'est ce qui fera que bien chacun devant Dieu nous serons bien mis à nu. Et vraiment, Dieu verra, nous ne pourrons rien cacher devant Dieu et chacun de nous recevra et bien selon sa marche ici-bas, selon justement la qualité de sa foi, la valeur de sa foi. Parce que c'est ça le but, c'est que la valeur de notre foi augmente de par ces situations difficiles, compliquées que l'on peut traverser. On a parlé de Job et j'aimerais terminer là-dessus aussi ce passage qui nous montre justement l'attitude, la réaction de Job face à cette épreuve lourde, compliquée qu'il a vécue. Il va recevoir ce conseil, et ce conseil, j'aimerais vraiment qu'on puisse aussi le graver sur nos cœurs. Ce conseil, c'est dans Job chapitre 22, verset 24. Regardez avec moi, Job chapitre 22, verset 24. C'était un très bon conseil, un conseil qui venait de un de ses amis, mais c'est un conseil qu'on peut prendre comme venant de Dieu ce soir pour nous. Ce conseil dit... « Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face, tu le prieras et il t'exaucera, et tu accompliras tes vœux. À tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivrera même le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Amen. » Et on voit la réaction de Job dans le chapitre suivant, et au verset 10, chapitre 23, verset 10, où il est écrit « Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivi, et s'il m'éprouvait, je sortirai pur comme l'or. » Voilà comment Job va répondre à cette épreuve. Comment allons-nous répondre ce soir à ce message, à la volonté de Dieu? S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Est-ce que nous allons accepter ou est-ce que nous allons dire « Ah non, non, moi je ne veux pas d'épreuves, j'accepte pas les épreuves, j'accepte pas de souffrir, j'accepte pas de passer par un chemin difficile, non, non, là je veux pas, je veux plus, j'en peux plus. » Comment allons-nous réagir? Est-ce que nous réalisons ce qui a vraiment de la valeur aux yeux de Dieu? S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Vous savez à combien l'or fond? À combien de degrés l'or commence à fondre? 1000 degrés. Vous savez ce que ça signifie? C'est que ça va chauffer. C'est vrai. C'est que ça nous montre qu'il y a des épreuves qui chauffent, il y a des épreuves qui sont pures, il y a des épreuves, oui, qui bouleversent, il y a des épreuves qui ébranlent, il y a des épreuves qui transforment les vies, qui transforment les cœurs. Et c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Alors acceptons eh bien, ce qui vient de Dieu, l'épreuve de notre foi. Laissons-nous façonner par lui en nous en remettant en lui, en nous confiant en lui et en saisissant que, bien sûr, j'ai ce soir mis l'accent sur ça, je l'avais à cœur, mais que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que des épreuves, il n'y a pas que des difficultés, que des obstacles. Bien sûr, il y a des temps de rafraîchissement, bien sûr, il y a les verts pâturages, il y a vraiment des temps de repos. Et tout cela même peut se vivre ensemble. On peut être éprouvé et en même temps dans la paix. C'est paradoxal, mais c'est la réalité. Alors vraiment que ce soir, on puisse encore se confier dans le Seigneur. Et restons dans l'obéissance. Restons dans cet attachement à la parole de Dieu, dans cette considération de ce qui vient de Dieu, ce qui a de la véritable valeur, ce qui est plus précieux que l'or, que l'argent de ce monde. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons de tout notre cœur et nous te rendons grâce pour ta parole, nous te rendons grâce pour tes encouragements, nous te rendons grâce pour ta fidélité, nous te rendons grâce parce que tu es celui, oui, qui permet l'épreuve, qui éprouve, mais qui fortifie, qui a compassion. Tu es celui, Seigneur, qui est rempli de miséricorde. Tu es celui, Seigneur, qui est patient à notre égard. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui veut nous voir progresser. Tu es celui, Seigneur, qui veut nous transformer à ton image. Tu es celui qui veut nous donner de te refléter, de te représenter et de prendre ce chemin par lequel tu es passé pour nous. Seigneur, vraiment, donne-nous, oui, de l'accepter. Remplis-nous de ton esprit pour marcher dans tes voies, selon toi. Seigneur, je te prie vraiment ce soir de fortifier chacun. Tu vois, Seigneur, la situation, Seigneur, de chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie vraiment afin que tu puisses illuminer les yeux de chacun de nos cœurs, afin que nous puissions voir les richesses de ta parole. Et considérer pas seulement dans notre intelligence que ces choses ont de la valeur, mais d'une manière concrète, pratique, dans notre vie de tous les jours, en t'honorant, en te respectant, en plaçant ta parole à la première place, en te laissant régner, en ne négligeant rien de tout ce que tu nous as accordé par le sacrifice de Jésus-Christ. Seigneur, nous te bénissons encore pour cette soirée. Je te prie vraiment de raccompagner chacun et de fortifier chacun. Merci pour tout ce que tu fais, que toute la gloire te revienne. Amen.